France Inter,
franceinter.com.
Le nord du pays, selon une source médicale, l'objet était un projectile israélien. Blackwater, cette société américaine de sécurité mise en cause dans une fusillade mortelle à Bagdad, est soupçonnée d'avoir livré des armes en Irak sans autorisation. Blackwater donc est l'objet d'une enquête confiée au parquet de Caroline du Nord aux États-Unis. C'est une information de la presse américaine. Deux salariés de la firme qui ont plaidé coupables collaborent à cette enquête. Gordon Brown convoque une cellule de crise sur la fièvre aphteuse. Le premier ministre britannique veut faire le point sur les derniers développements du virus. Hier, un sixième cas de la maladie a été confirmé dans un élevage du Surrey, dans le sud-est de l'Angleterre. Pour conclure, cet accord trouvé hier à Montréal sur les HCFC, des gaz très nocifs pour la couche d'ozone, utilisés notamment dans les appareils de climatisation ou dans les frigos. Les pays industrialisés ne pourront plus en produire à partir de 2020. C'est plutôt que prévu, on parlait avant de 2030. Selon les Nations Unies, cette décision doit permettre de réduire de 3,5% les émissions de gaz à effet de serre.
Eh bien, c'est pas mal, ça, déjà, hein, Julie. Oui.
J'allais vous annoncer Denis Chessou et votre émission. C'est au de mon amour, c'est tout de suite.
Je vous écoute évidemment tout à fait attentivement. Enfin, c'est quand même pour 2020, mais c'est toujours un petit progrès. Merci beaucoup. On est dans le sujet parce qu'on va consommer vert avec un spécial énergie de 60 millions de consommateurs. Et donc, on va essayer très concrètement de se dire qu'est-ce que l'on a, parce que les solutions, on les a aujourd'hui. Manque encore un peu de volonté. Et le consommateur, qui est aussi un citoyen, on va le rappeler, a toute sa place pour relever donc ce défi du réchauffement climatique et, je dirais, de la crise écologique plus en général. Merci beaucoup, Julie.
À tout à l'heure.
CO2, mon amour, avec Paprec, recyclage des déchets des industries et des collectivités.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine qui empêche de polluer et de réchauffer en rond, CO2 mon amour, avec Antoine Viossa et Bénédicte Roy la technique, et assisté de Jean-Baptiste Audibert, Jean-Christophe Pinaza et Xavier Pestugia qui réalisent cette émission. Allez, une petite humeur après les raisins de la colère de Steinbeck, les résidus et les raisons de la colère. Rassurez-vous, je ne me compare pas du tout à cet homme-là. Alors au programme cette semaine, Alzheimer, cancer, OGM, pesticides, ne fuyez pas tout de suite. Avec un match au sommet entre le professeur Bellepomme, spécialiste des cancers, et les lobbies de l'agrochimie, enfin pardonnez-moi, les industries de la protection des plantes. Et pour arbitrer la partie, un super ministre qui évoque prématurément en off, et non d'ailleurs face aux journalistes du Monde, le gel des cultures OGM au Grenelle de l'environnement, ou comment vendre la peau de l'ours avant la fin des négociations. Bon, un petit rappel quand même, c'est avant tout du côté de l'Union européenne que se décide tout cela, même avant la France. Mardi donc, le professeur Bellepomme planchait à l'Assemblée nationale sur le thème « La pollution par les pesticides en Martinique », sous-titre « Un désastre écologique et sanitaire ». Alors je vais vous résumer un tout petit peu l'affaire, parce que ça monte à une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années, les amis des plantes, armés de la panoplie du parfait petit agrochimiste, ont mené la vie dure aux parasites des cultures antillaise, du genre charançon du bananier par exemple. Il y a fort à parier que dans le feu de l'action, côté pesticides, on est parfois un peu, vous savez, forcé la dose. Bilan de l'opération protection des plantes, les terres cultivables des Antilles ont fait le plein de résidus toxiques pour les siècles à venir, les sols, les rivières, les cultures vivrières, les poissons, les crustacés regorgent de substances au nom évocateur, chlordécone, fipronil, durion, endosulfan, paraquat. Alors tenez, on va prendre le chlordécone, ça ne s'invente pas, hein. Il n'a qu'un seul N, décone, mais pourtant c'est comme ça. Il est interdit aux États-Unis depuis 1976 et pour cause de grave pollution. Alors on l'a recruté dans les Antilles, mais cette fois-ci de 1981 à 1993, pour la reconstitution des bananeraies détruites par les cyclones Allen et David. Et pourtant, le chlordécone fait partie vraiment de ce qu'on appelle la bande des 12 salopards, aujourd'hui interdit par la Convention de Stockholm, c'est-à-dire des polluants organiques persistants. Ces produits chimiques dont la durée de vie ferait pâlir de jalousie certains déchets nucléaires. Rien de grave, donc, nous a assuré cette semaine la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Le rhum et les bananes ne sont pas contaminés, vous pouvez continuer de les exporter. Évitez simplement de consommer les produits du jardin ou l'autre source plus de 2 fois par semaine. Et pendant que vous y êtes, pour désherber vos allées, faites l'économie des pesticides, l'autre source du coin fera très bien l'affaire. Alors pour terminer dans la famille des poisons violents, Je voudrais citer son petit frère, donc le paraquat. Bonne nouvelle, la directive européenne autorisant le paraquat a été annulée par la Cour de justice cet été. Alors à bientôt, on va se dire bientôt, les bananes bio de Martinique et de Guadeloupe. On se dit c'est pour quand ? J'oubliais, le Centre international de recherche sur le cancer, qui avait classé le chlordécone cancérogène probable en 1979, eh bien, ce même centre vient de publier un rapport intitulé à peu près « Dormez tranquille, braves gens », évidemment, ce n'est pas son intitulé, mais qui nous assure qu'aucun des pesticides utilisés actuellement n'est cancérogène chez l'animal et chez l'homme. Conclusion, chlordécone, paraquat et cancer, vous m'oubliez tout ça vite fait. Et d'ailleurs, avec la maladie d'Alzheimer, ça ne devrait pas être trop difficile. Eh ben on y va pour le menu, c'est ça, absolument, non, le disque ce sera pour après, puisque donc là on va donc avoir, vous l'avez compris, notre Jean-Marie Pell dans quelques instants, qui va nous parler du cercle vicieux du réchauffement climatique, donc on est complètement dans le sujet, et puis avec Marie-Jeanne Husset, l'âme de 60 millions de consommateurs, rédactrice, etc. Bon, vous avez sorti un guide pratique et très très bien fait pour lutter contre le réchauffement climatique au quotidien, consommer vert, spécial énergie. Les enjeux, on les connaît. J'ai écouté hier la très bonne émission de Jean-Marc Four et pourtant il tourne. Et je me disais que par exemple en Suède, on n'aurait pas besoin de faire ce type d'émission parce qu'ils ont déjà pris le réchauffement climatique par les cornes. Ils veulent s'affranchir d'ici à peu près 2020, donc des énergies fossiles. Il y a toujours des conseils à donner et pour eux, c'est complètement acquis. Bon, on sait que nos modes de production et de consommation, si on continue comme ça, on va dans le mur. Mais il y a quand même effectivement heureusement de la marge. Alors, vous dites d'ailleurs dans votre édito, vivre mieux, consommer moins, c'est par là qu'il faut aller, quoi.
Oui, absolument. C'est important parce que nous, consommateurs, nous avons un grand rôle à jouer. D'abord parce que justement, nous sommes les consommateurs. Nous avons un rôle à jouer d'abord aussi en faisant pression sur les fabricants, sur les industriels, pour qu'ils répondent à ces enjeux et qu'ils nous mettent sur le marché, par exemple, des voitures moins polluantes, plus économes en énergie. Nous avons un rôle à jouer aussi parce que même si devant l'ampleur des enjeux, bien évidemment qu'il faut des décisions, des grandes manœuvres internationales et nationales, mais ça ne doit pas nous dispenser, nous consommateurs, d'agir parce que, eh bien, si nous agissons tous, la somme de petits gestes, comme je le dis, peut avoir un grand effet. Ensuite, c'est notre intérêt de consommateur, parce que mine de rien, l'énergie va coûter de plus en plus cher.
Je crois que c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on a beau à la fois parler d'urgence, de crise écologique, je crois que en ce qui concerne les personnes qui nous écoutent, et aussi d'ailleurs les entreprises et les industriels, si on leur dit, vous pouvez effectivement gagner quelque chose, quel est mon intérêt, c'est aussi comme ça que ça passe.
Il faut le dire, bien évidemment, il ne faut pas refuser de le dire comme ça, c'est-à-dire que c'est aussi notre intérêt. Parce que nous allons payer l'énergie de plus en plus cher. Et puis enfin, parce que nous sommes des citoyens. Et puis, dans une économie de marché, l'économie de marché, maintenant, elle est mondiale. Le consommateur tout puissant, s'il est conscient de sa force, il faut qu'il ait conscience qu'il a le pouvoir de changer le monde.
Voilà. Donc, il y a urgence, mais surtout pas de défaitisme.
Ah, surtout pas, au contraire.
Et je disais que dans la boîte à outils, on a déjà tous les éléments qu'il faut. Donc,
Voilà, donc à force de ce hors-série que nous publions en ce mois de septembre, c'est la suite de celui que nous avons publié l'année dernière à pareille époque, qui s'appelait déjà Consommer Vert et qui brassait un peu tous les domaines. Mais là, nous l'avons
axé sur l'énergie,
axé sur la consommation d'énergie.
Voilà, et donc avec un homme qui connaît très bien ça, puisqu'il a aussi écrit un guide des énergies vertes pour la maison, c'est Patrick Perrault qui est avec nous.
Absolument, qui a suivi tout ce hors-série.
Donc on va en parler, on va cliquer sur différents chapitres. Et on va donc écouter Jean-Marie Pelt dans quelques instants, qui va vraiment bien amener le sujet. Un coup de batterie peut-être, oui, c'est sûrement Mark Ronson cette fois-ci qui frappe à la porte.
Beg you anymore.
Bien, il a terminé de chanter et de swinguer. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va parler du cercle vicieux du réchauffement climatique. Alors, réchauffement climatique, mode d'emploi, on sait très bien que s'il n'y avait pas d'effet de serre sur Terre, eh bien nous vivrions par moins 18 degrés. La moyenne, c'est 15 degrés. On sait que l'homme a quand même fortement déréglé le thermostat de cette planète en envoyant donc ces gaz à effet de serre, le méthane, etc. Mais lorsque vous parlez de cercle vicieux, qu'est-ce que vous voulez dire Jean-Marie ?
Bien, je veux dire que dans ce mécanisme du réchauffement, au fur et à mesure qu'on constate le réchauffement, on s'aperçoit aussi qu'il y a des effets rétroactifs sur les causes du réchauffement. Mmh. Il y a des cercles vicieux, et des cercles vicieux qui vont dans le mauvais sens et qui produisent une sorte d'effet boule de neige. Alors, on va en mettre quelques-uns en scène. On a d'abord le phénomène de la fonte rapide de l'Arctique, qui est dû au réchauffement beaucoup plus rapide des régions subpolaires que, par exemple, à l'équateur, où le réchauffement est faible. Et on a, par exemple, des températures qui ont baissé en Yakoutsie, en Sibérie. En Sibérie, dans cette région qui est la plus froide du monde, il fait parfois moins 70 degrés. Mmh. Mais pour un hiver normal, il fait moins 60 degrés. Oui. Alors maintenant, les Yakouts disent « Oh là là, il fait plus froid en hiver, il n'a même pas fait moins 50 degrés mmh. ». Ça paraît très drôle pour nous, mais pour eux, voilà, c'est des hivers doux. Que se passe-t-il alors ? Alors il se passe que le sol perpétuellement gelé, qu'on appelle le permafrost, oui. se met à dégeler, devient boueux. Comme dans ce sol gelé et donc dur, on a enfoncé des pieux pour construire les maisons.
Tout s'écroule.
Tout s'écroule, absolument. Et pas seulement les maisons, mais les arbres aussi s'écroulent. Oui. Et alors on voit des espèces de forêts où les arbres tombent les uns sur les autres. C'est un spectacle tout à fait étonnant.
Nicolas Vanier dit que c'est un vrai jeu de Mikado lorsque l'on arrive
oui,
là.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu des dominos qui sont tombés les uns sur les autres. Mais le drame, c'est que ce permafrost enferme un gaz qui s'appelle le méthane.
CH4,
qui a... lui-même un effet de serre nettement plus fort que le gaz carbonique, c'est-à-dire qu'en fait, ça se réchauffe et du coup, ça dégage encore plus de gaz à effet de serre. Voilà le type même d'un cercle vicieux.
Même si d'ailleurs le méthane reste moins longtemps, on va dire, dans l'atmosphère.
Il reste moins longtemps,
mais il est beaucoup plus violent.
Il est violent.
Ouais.
Il est beaucoup plus violent. Alors, un autre cercle vicieux, cette fois-ci, c'est le recul des banquises. Nous ne sommes plus sur les continents, nous sommes sur la mer. La banquise recule, la mer n'est plus toute blanche. Lorsque la banquise est blanche, elle reflète la lumière et la chaleur du soleil, parce que le blanc reflète et n'absorbe pas.
Donc elle la renvoie en
elle
fait,
renvoie,
dans l'atmosphère, tandis que là, au contraire...
Elle ne le renvoie plus, la chaleur du soleil tombe sur la mer, et du coup, la mer se réchauffe, et elle se réchauffe beaucoup plus vite.
Mais alors, il y en a quand même qui se frottent les mains actuellement, ce sont les pétroliers.
Oui, alors ça c'est terrible. Alors comme la mer se réchauffe, la banquise fond, alors on dit « chic alors !» On va pouvoir maintenant extraire du pétrole de ces régions qui étaient inaccessibles. Et on estime qu'il y a un quart des ressources pétrolières mondiales
le
dans ces régions.
Aussi, oui, c'est ça.
Donc on se dit, le pétrole qu'on croyait être en fin de course dans les années 2040, on va peut-être gagner 10 à 15 ans. Ce qui est une catastrophe absolue, car on mettra encore plus de gaz carbonique en l'air, donc on réchauffera encore plus.
Oui, mais vous savez qu'on raisonne à court terme. Donc on se dit, lorsqu'on est, je ne sais pas, russe, norvégien, on se dit, eh bien, nous allons devenir les nouveaux Émirats arabes.
C'est tout à fait ce qu'on se dit, et c'est la raison pour laquelle les pays qui sont autour du cercle solaire, polaire,
oui,
sont en train...
Joli.
Oui, c'est joli.
Hein, oui.
sont en train de vouloir chacun son morceau à lui. Et il y a déjà une compétition.
Et ça sera
donc
des conflits territoriaux.
Et des conflits territoriaux. Et ça sera donc plus de pétrole, plus de gaz carbonique, et donc plus de réchauffement. Alors que il faudrait dès à présent remplacer le pétrole, laisser le plus de pétrole possible sous terre et passer à la voiture à hydrogène, par exemple. Oui. Mais les pétroliers pensent que tant que le pétrole marche, ça marche. Et puis on verra après, on prendra le relais. Mais après, ça sera trop tard.
C'est-à-dire qu'on épuise au maximum
oui,
la ressource.
Voilà. Et après, ça sera trop tard. On aura mis énormément de gaz carbonique en l'air. Alors, ce réchauffement de la mer produit un autre effet. Au fond de la mer, il y a ce qu'on appelle des hydrates de méthane. Ce sont des débris de matière organique qui sont tombés au fond des océans, qui, lorsque les températures s'élèvent, se décomposent et dégagent du méthane de nouveau, comme le permafrost. Et alors on verra des petites bulles de métal sortir de la mer. Et comme on vient de dire à l'instant que ce méthane a un très fort effet de serre, ça renforcera encore le réchauffement climatique. Et c'est un mécanisme qui s'est produit à la fin de l'ère primaire, où il y a eu un très fort réchauffement qui a emmené 95% des espèces vivantes, tant ce réchauffement a été dur. Et c'était dû en grande partie à ces émissions venant de la mer, de méthane.
D'accord, donc c'est encore une très bonne nouvelle.
Alors, il y en a plein d'autres.
Il y en a d'autres.
Oh, oui.
Chouette.
Alors, mauvais temps en Europe du Nord.
Oui.
Chic alors, nous prenons l'avion et nous allons aux Maldives, nous allons aux Caraïbes, nous allons en Polynésie, nous allons dans l'océan Indien. L'avion dégage des quantités énormes de gaz à effet de serre. Donc plus il fait mauvais au nord, là où il y a beaucoup de population, plus on fuit vers le soleil, plus on aggrave de nouveau le mécanisme et on ajoute de nouveau du CO2 à une atmosphère qui en contient déjà beaucoup, beaucoup trop.
Mais alors, c'est pas fini, parce qu'en fait, si on regarde le réchauffement et le lien avec la biodiversité, qu'est-ce que l'on peut dire ?
Eh bien, c'est pas fini, parce que si on regarde le lien avec la biodiversité, on sait que le réchauffement va entraîner la mort d'un grand nombre d'espèces. Et on le sait avec certitude, puisque ça s'est passé au Permien, et qu'on a déjà, par conséquent...
Alors le Permien, on le resitue...
Fin de l'ère primaire, il y a 260 millions d'années à peu près. Bon, on perdra beaucoup d'espèces, il y aura des déséquilibres qui se manifesteront dans la nature, et donc le réchauffement climatique, non seulement il produira des déséquilibres en ce qui concerne les accidents météorologiques majeurs, mais des déséquilibres dans la nature avec des espèces qui prendront le dessus sur d'autres, avec des pertes d'espèces utiles, avec un recul massif peut-être des abeilles, etc. Donc ça créera un autre anomalie. Et puis ça continue, parce que c'est pas fini. Actuellement, les Chinois déboisent énormément dans le monde entier. Alors, le Pacifique est déboisé, le Sud-Est asiatique pareil, l'Afrique pareil, le Mozambique pareil. Or, le bois fixe du gaz carbonique. Oui. Et quand on fait disparaître le bois Et qu'on enlève la forêt, le gaz carbonique n'est plus fixé par la masse végétale, puisque la photosynthèse, c'est ce que font les plantes quand elles prennent du gaz carbonique dans l'air et qu'elles le fixent dans leur tissu vivant, bois, feuilles, tiges, etc. Donc là encore, nous diminuons les capacités de la Terre à sortir de l'atmosphère le gaz carbonique que nous émettons en trop. Bon, ben c'est fini, mais vous avez compris. C'est que le phénomène s'accélère tout seul. C'est que tel phénomène déclenche tel autre, qui déclenche tel autre, qui déclenche tel autre, et tout va dans le même sens.
C'est à la fois cumulatif, et il y a une inertie là, qui se passe.
Voilà. Et tout va dans le même sens, et tout va vers une accélération du réchauffement. Alors en face de ça, il faut une accélération du contre-feu que les humains devraient déclenché. Moi, j'ai bien aimé, j'ai lu un livre d'Edgar Morin qui parle de terre-patrie. Moi, je pense qu'il faudrait au plus vite un organe des Nations Unies pour l'environnement, ce que Chirac avait lancé. En tout cas, il a lancé l'idée. Et il faut qu'on gère la terre autrement qu'au coup par coup et avec des discours de bonne volonté. Il faut vraiment arriver à une nouvelle gérance qui serait en fait le point de départ et le signal d'une nouvelle civilisation. Ne plus faire comme on a fait jusqu'à présent.
Merci beaucoup Jean-Marie Pelt. On se retrouve la semaine prochaine. Et ben quand même, bonne journée puis bonne suite d'émission, hein, parce que je sais que vous allez rester pour écouter la suite. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
D'autant plus qu'on n'est pas du tout condamné au déclin, vous savez, très en vogue en ce moment et au pessimisme. Il y a à la fois urgence, mais il y a quand même des solutions. Pierre Hadane a coutume de dire qu'il faut rêver ce siècle collectivement. Et nous, on va être tout à fait concret, donc avec ce guide de 60 millions de consommateurs, Consommez Vert. Patrick Pirot et donc Marie-Jeanne Husset sont avec nous en direct dans ce studio. Comment, je dirais, il faudrait raisonner? C'est-à-dire que les entreprises, très souvent, donc, raisonnent avec des investissements et donc un retour sur investissement en un certain nombre d'années. En général, c'est autour de 5 ans, 7 ans. Le consommateur, on a un peu le sentiment que c'est le prix immédiat d'une énergie ou bien d'un bien qui l'intéresse. Bon, et là, il y a peut-être un changement aussi de façon de faire. Donc, lorsque l'on pense à ces énergies renouvelables, à ces autres façons de gérer l'énergie, Patrick Pirot, comment faudrait raisonner pour que ça fonctionne, quoi?
Tout d'abord, se rendre compte que l'on peut, sans trop de difficultés, diviser par deux sa facture énergétique. L'énergie va augmenter, donc ça c'est de l'argent immédiat, les calculs le montrent, et pour ça il n'y a pas besoin de changer son mode de vie considérablement. Il faut faire attention, il faut choisir les bons appareils, penser que leur rentabilité du point de vue de l'énergie s'étalera peut-être sur plusieurs années, mais que c'est un investissement sûr, parce que l'énergie va continuer d'augmenter. C'est gérer son argent en bon père de famille, hein. Ce n'est pas inventer des solutions pour après-demain, c'est pour aujourd'hui économiser l'énergie. C'est isoler sa maison. Il y a des crédits d'impôt qui permettent d'en rembourser 50% de ces travaux d'isolation de maison.
En rappelant que c'est vraiment le poste numéro 1 dans le domaine du bâtiment et des maisons, c'est avant tout l'isolation. C'est par là que ça fuit. On sait que ça fuit par le toit, que ça fuit par les murs.
Voilà, le toit, les murs, c'est pratiquement 50% de la fuite d'énergie. Alors, c'est la première démarche à faire. Alors, elle est moins spectaculaire, moins clinquante que d'acheter un nouvel appareil, des panneaux solaires, une pompe à chaleur ou des appareils qui sont un petit peu nouvelles technologies.
Alors, faisons un tout petit peu d'inventaire, donc Patrick Pirot, puis après on va cliquer justement sur les pompes à chaleur parce qu'il y a quand même un grand boom et qu'on en a très peu parlé dans cette émission. Donc, on a les panneaux photovoltaïques.
Alors, Denis, si on peut peut-être
serrer.
D'abord, il y a d'abord ce qui sert à fabriquer de la chaleur. C'est important parce que la chaleur, c'est les deux tiers de la consommation d'énergie du foyer, hein. Donc, fabriquer la chaleur, on peut le faire avec des capteurs solaires, hein. On peut le faire avec des chaudières ou des poêles à bois, très intéressant. Il y en a qui sont d'un rendement tout à fait bon aujourd'hui, et avec des pompes à chaleur. Et ensuite, le deuxième secteur, c'est produire de l'électricité, donc avec des panneaux photovoltaïques qui transforment l'énergie solaire en électricité. Il y a les éoliennes, il y a les petites turbines hydrauliques, mais ça, c'est dans des configuration un petit peu particulière. Il faut une rivière. Hein. Et aussi transformer du gaz de fermentation de déchets en électricité. Voilà, il y a plusieurs solutions. Mais bon, si j'avais un conseil à donner, il faut d'abord s'occuper de la chaleur parce que c'est là où on a le plus de gains à faire.
C'est ce que l'on entend. Actuellement, on a une énergie qui est donc tout à fait centralisée, donc principalement avec l'énergie nucléaire. Si on clique que sur la partie électrique, hein, bien sûr. Et est-ce que plus tard, avec aujourd'hui les 30 millions, on va dire, de logements, on va rappeler qu'ils sont construits entre 400 000 et peut-être bientôt 700 000 par an, donc qui sont neufs, mais on a quand même 30 millions de logements qui sont là, donc il faut faire quelque chose avec. Mais on aura plus tard une énergie décentralisée ou pas, Marie-Jeanne ou bien Patrick, plus importante, on va dire, plus importante dans ce qui concerne nos maisons. Je ne parle pas forcément du côté industriel, mais...
Oui, c'est la tendance. Tous les travaux actuels s'orientent vers ça, c'est-à-dire des maisons qu'on appelle, alors c'est un joli mot, des maisons à énergie positive, oui. C'est-à-dire qui produiraient plus d'énergie qu'elles n'en consomment, avec des capteurs solaires, avec des panneaux photovoltaïques, avec des pompes à chaleur, et donc qui pourraient même produire un petit peu d'énergie, de l'électricité pour le réseau de manière locale, pour le quartier, pour la ville, alors qu'aujourd'hui on a une cinquantaine de centrales nucléaires qui approvisionnent toute la France avec des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres de lignes à haute tension qui traversent le paysage.
En fait, on a moins de centrales, mais on a plus de réacteurs. On a 58 réacteurs, mais moins de centrales oui. que ça. Mais c'est vrai que bon, ça existe, on sait que ça coûte très cher. Ne serait-ce que déjà arriver à une consommation de 50 kilowatts par mètre carré par an, ce serait déjà pas mal, ou peut-être moins, parce que...
Alors aujourd'hui, les maisons neuves qu'on construit, elles ont une consommation en énergie de chauffage, qui est le principal notre problème actuellement, qui est aux environs de 100 kilowatts par mètre carré. Enfin, gardons le chiffre 100. Hein. Mm-hmm. On sait aujourd'hui qu'il faudrait arriver d'ici peu à 50 kilowatts par mètre carré. Mais on sait faire beaucoup mieux aujourd'hui. On sait faire 15 kilowatts par mètre carré. On sait faire des maisons qui même sont divisées par 10 ces quantités. En Autriche, il y a des maisons expérimentales qui consomment à l'année des bureaux en l'occurrence, qui consomment 6 kilowatts par mètre carré. Ce sont des habitats expérimentaux, mais ça prouve bien qu'on sait faire aujourd'hui. On sait faire et que ce n'est pas nécessairement plus cher parce qu'on fait des tas d'économies là-dessus, parce qu'on consomme moins de matériaux.
Parce que c'est ce qu'on nous objecte en permanence. Oui, mais c'est pas un truc pour bobo, ça coûte cher, c'est expérimental. Mais moi, qu'est-ce que je fais avec mon pavillon quoi.
Non, pas du tout. Bah, écoutez, on a fait des calculs. En Suisse, ils le font, les calculs. Oui. C'est environ 10 à 15% plus cher d'avoir une maison très bien isolée et qu'il y a des énergies vertes. Qu'est-ce que c'est 10 à 15% de consommation quand vous revendrez votre maison dans 10 ans et que tout le monde exigera que les maisons soient au top niveau du point de vue de l'énergie.
Exactement.
C'est un investissement pour le futur. On fait la même chose quand on achète une voiture. On se demande est-ce qu'elle aura une bonne cote à l'Argus quand on la revendra dans seulement 5 ans. Pourquoi on ne se pose pas les mêmes questions pour la maison? C'est de l'investissement bien placé.
Marie-Jeanne Husset.
Absolument. Et puis il faudrait aussi que pour les habitats collectifs, parce qu'il y a tout ce domaine-là, il faudrait vraiment que ce soit une priorité maintenant, parce que c'est vrai que je vous écoutais, et puis je pensais au début des années 70, c'est-à-dire tout de suite après le premier choc pétrolier, après 73, qu'est-ce qu'on a rêvé d'avoir effectivement une énergie décentralisée et qui soit beaucoup plus efficace que cette énergie centralisée.
Oui, mais tant que l'énergie n'est pas chère de toute façon, on ne fait pas d'efforts.
Mais je pense que il y a le porte-monnaie des consommateurs et ça évidemment ça compte beaucoup parce que il faut voir quand même que les ménages
c'est pas extensible.
Puis il y a beaucoup de ménages modestes en particulier, mais il y a
eux,
aussi
les premiers touchés,
absolument,
souvent mal isolés,
souvent
avec des convecteurs électriques lorsqu'ils sont locataires.
Oui, parce qu'on a fait du tout électrique pendant longtemps quand même, il faut pas l'oublier. Et mais il y a aussi la prise de conscience. Et je pense que c'est en train de venir et on le voit. Alors les consommateurs, ils n'ont pas toujours tous les moyens, les indicateurs pour avoir les consommations. Là, on parle du chauffage et de la maison. On va parler tout à l'heure de tout ce qui est nouvelles technologies, des téléviseurs et de tout ça. Oui. Eh bien, l'information, ne serait-ce que sur la consommation des équipements, n'est pas toujours accessible. Donc ça commence par là déjà, savoir ce qu'on consomme.
Alors ce que je vous propose... Là, on va partir dans le département de l'Isère. On va rencontrer Hugues et Muriel Cousseau, qui sont éleveurs dans le massif de la Chartreuse à Saint-Christophe-la-Grotte. Parce que là, il y a une expérience qui est tout à fait intéressante. Racontez-nous, Hugues.
Oui, donc Saint-Christophe, nous, on est à 700 mètres d'altitude. Et on est effectivement face au massif de la Chartreuse. par la fenêtre, je vois le pas du frou, la sûre, le grand son, le col de la placette.
Et, ben voilà.
Et j'aperçois même le Vercors dans le fond.
Et vous apercevez peut-être vos brebis, parce qu'en fait vous êtes éleveur, agriculteur, et puis donc vous fabriquez du fromage de brebis. Alors ce qui nous intéresse bien, c'est de savoir comment vous chauffez votre lait et quelle idée vous avez eue déjà depuis quelques années, parce que ça fonctionne très bien.
Donc nous, effectivement, on élève des brebis laitières et tout le lait est transformé sur place en tom, yaourt et d'autres fromages. Et il y a effectivement 4-5 ans maintenant, on a étudié la possibilité d'installer un chauffe-eau solaire. Donc classique pour chauffer l'eau de la fromagerie et puis de la maison, histoire de faire d'une pierre deux coups. Et puis donc, en discutant avec le chauffagiste, il est apparu que pendant l'été, le soleil donnait fort et il fallait parfois dissiper la chaleur excédentaire pour éviter que le chauffe-eau se mette à bouillir. Mmh. Et c'est donc à ce moment-là que on a eu l'idée de récupérer cette chaleur excédentaire, non pas pour la remettre dans l'air ou pour chauffer le sol comme c'est fait parfois, mais de chauffer le lait pour faire la tome. On se sert du chauffe-eau comme d'une chaudière qui accumule la chaleur du soleil pendant la journée. On récupère cette chaleur le lendemain matin pour chauffer la tome. Donc l'eau traverse le chauffe-eau dans un serpentin et revient tourner autour du chaudron dans une double paroi, comme un radiateur et une chaudière classique. Donc concrètement maintenant, ça veut dire que du mois de mai à septembre, suivant l'ensoleillement évidemment, on arrive à chauffer le lait de la tome à l'énergie solaire.
Alors, on se doute bien évidemment que votre fromage de brebis a bien sûr le même goût, mais pour vous, je crois que c'était assez émouvant quand même de se dire, ah ben voilà, j'essaie quand même de boucler la boucle, hein, d'être le plus vertueux possible.
Quand la première fois que ce chaudron a marché, il y avait un peu de magie dans l'air. Quoi. Oui. C'était mes premiers mots, c'était mon chaudron magique, quoi. Avec le chauffagiste qui était là, quand ça a démarré, que la température s'est mise à chauffer, à monter, je crois qu'on a été émus tous les deux. Hein, c'est vraiment impressionnant. Quoi.
Bon, vous n'avez pas du tout interrogé vos brebis, mais enfin, elles sont très contentes aussi du résultat. Hein.
Oui.
Bien sûr. Merci en tout cas pour cette initiative. Et puis à très très bientôt. Au revoir, Hugues.
Donc, à bientôt, Denis.
Alors, réaction, vous écoutiez. Donc,
que du bon sens là-dedans. Ouais. Ça me fait penser à ces fermes où on récupère les déchets, on les fait fermenter, on récupère du gaz, qui s'appelle du biogaz, pour faire tourner une petite turbine électrique qui produit l'électricité pour la ferme. La chaleur, on la récupère pour chauffer la porcherie. On récupère les déchets des porcs et ça continue. Et une fois que les déchets ont été fermentés, on peut les épandre sur le champ à côté. Donc on règle une question d'énergie, une question de déchets, et puis une question agricole à la fois. Voilà.
Non, mais il y a de plus en plus d'agriculteurs qui sont quand même très conscients de ça. Ils y vont, ils ont des initiatives qui sont tout à fait positives. Je voudrais que l'on clique là sur le côté pompe à chaleur. On a déjà parlé des panneaux photovoltaïques ici dans cette émission. On a déjà parlé du solaire thermique. On a parlé des chaudières à bois. Les pompes à chaleur, je vois ça parce qu'il y a vraiment un grand boom. Je vois qu'il y a plus de 53 000 pompes qui ont été installées en 2006. Alors, la France est devenue le deuxième marché européen derrière la Suède. Donc, il y a un schéma qui explique ça très, très bien. Mais on va expliquer le schéma à la radio, en quelque sorte, dans ce numéro de Consommer Vert. Donc, le principe de la pompe à chaleur, c'est de capter les calories soit de l'air ou du sol.
Oui, généralement, ça peut être même éventuellement de l'eau. Ça, c'est comme un réfrigérateur pour donner une image. Hein. Votre réfrigérateur, qu'est-ce qu'il fait ? La machine, elle extirpe les calories de l'intérieur de l'habitacle, même si on considère qu'il est déjà froid, et on les rejette à l'extérieur.
C'est ça, oui.
Et c'est chaud. Et là, derrière le réfrigérateur, la grille, elle est chaude. Là, on fait la même chose. On extirpe des calories de l'air ou du sol à l'extérieur de la maison et on les restitue à l'intérieur pour chauffer. Alors à partir de là, on peut chauffer une maison et on peut même avoir des appareils qui sont dits réversibles, c'est-à-dire qu'en été, on fait l'inverse. On extirpe les calories de l'intérieur de la maison et on les met à l'extérieur. On arrive à rafraîchir comme ça de 4-5 degrés et donc en fait, en quelque sorte, on a une un chauffage climatisation réversible et on restitue des calories qu'on a prélevées en hiver, on les restitue en été.
Alors voilà. Ce que vous notez bien, c'est qu'une pompe à chaleur de qualité doit présenter un coefficient donc, de performance qui est supérieur à 3, ça veut dire qu'elle fournit plus de 3 fois l'énergie qu'elle consomme.
Parce que alors, sinon, on peut comparer avec un chauffage électrique parce que c'est vraiment ça la bonne comparaison. Un chauffage électrique, on fournit, mettons, 1 kWh électrique et il fournit en échange 1 kWh thermique. Voilà. Oui. La pompe à chaleur, donc, c'est une pompe qui tourne et qui fait tourner un fluide dans un circuit. Hein. Elle, pour 1 kWh électrique que l'on investit, en quelque sorte, on récupère au moins 3 kWh de chaleur. Donc, c'est un gain bien plus important que le chauffage purement électrique qu'on connaissait auparavant. Donc, ça, c'est les bonnes pompes à chaleur. Aujourd'hui, on peut même récupérer 4 kWh. On va même au-delà. Et donc, on peut.
Et principalement pour le chauffage, hein, vous dites, c'est ça.
Donc, c'est le chauffage, principalement, ouais. Aujourd'hui.
On mais peut chauffer sa maison. C'est-à-dire qu'après, il faut des serpentins.
Alors, comment ça se passe?
C'est dans du neuf ou bien est-ce qu'on peut.
On peut faire.
Dans l'ancien, on peut faire quelque chose.
On peut faire aujourd'hui des choses dans l'ancien. Classiquement, ce qu'il faut. Il y a un circuit qui va capter des calories à l'extérieur. Alors, c'est un serpentin dans lequel circule un liquide. Alors, on a deux solutions. Soit c'est un serpentin qui court en surface dans un jardin, par exemple, à peu près un mètre sous le sol. Il faut une surface qui est à peu près le double de celle de la maison. Hein. Ou bien, on va les prendre en profondeur. Ce qui est intéressant, c'est parce que la température est plus élevée en profondeur. À 80 mètres, il y a à peu près 15 degrés presque toute l'année. Et donc, c'est très stable et ça marche bien. Mais on peut aussi prélever les calories dans l'air. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que ça permet de ne pas avoir à creuser, à forer dans le sol ou à faire courir des serpentins à foutre son jardin cul par-dessus tête. Hein. On peut faire ça sur de l'ancien. On peut faire ça même dans des immeubles, probablement, si on a la copropriété l'autorise. On va prendre les calories dans l'air à l'extérieur. C'est comme une climatisation dont on a l'habitude, sauf que là, elle est conçue pour produire de la chaleur dans l'appartement.
Alors, tous les prix, les aides possibles, vous avez ça dans le guide, ça, on ne va pas le détailler. Moi, je vous propose de suivre notre route. Tenez, d'abord avec Maxime Le Forestier, puis on va continuer notre route sur ces fameuses énergies.
C'est pas cher, durable, au moins une heure par semaine. C'est CO de mon amour avec Denis Chessou.
Laissez-les dans les cartons, les plans de la planète. Faites-les sans moi, n'oubliez pas les fleurs. Quand ces rétroviseurs-là passent par la tête, j'ai du feu sur le gaz. M'attends ailleurs. Je fais que passer ma route. Ta vue seule tracée. Passer entre les gouttes. Parole après parole, note après note, elle voulait tout savoir sur ma vie. J'ai tourné cette fois ma clé dans ses menottes, cette fois ma langue dans sa bouche. Ma route, ma vue seule tracée, passée entre les gouttes et va des belles.
Un un classique, on l'aime, choisi par Karl Wasser, notre programmateur, vous l'avez bien sûr reconnu. Nous poursuivons notre voyage avec une petite nouvelle séquence qui interviendra régulièrement, à savoir carton. Ah bah non, je vous dis pas, c'est très coloré.
Distribution des prix. Carton rouge, carton vert.
Notre premier carton rouge de la saison, nous allons partir du côté du Larzac. Thierry Lozano, bonjour.
Bonjour, Denis Chessou.
Vous êtes coprésident de l'association de protection du Larzac. Alors, on connaît ce lieu absolument superbe. Que se passe-t-il sur le Larzac? Pourquoi êtes-vous inquiet?
Alors, c'est l'association, le nom de l'association, c'est l'association de sauvegarde des Baumettes.
Oui.
Donc, il se trouve sur le Larzac, où il va se passer très prochainement des choses très intéressantes, c'est-à-dire la création d'un superbe projet golfo-immobilier, qui va nous amener évidemment un tourisme rare et pas dénué d'intérêt, vous vous en doutez.
Lorsque l'on pense golf, on pense quand même à l'eau, et lorsque l'on pense au Larzac, on se dit que c'est pas exactement le coin où il y a de l'eau.
Non, c'est pas exactement le coin où il y a de l'eau, puisque la commune en elle-même de l'Hospitalet du Larzac ne représente que 220 habitants, et que cette commune, comme une grande partie du Larzac, est située dans une zone Znief. Donc la zone Znief, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Mmh. Et on a le classement de type 2, c'est-à-dire qu'un certain nombre de recommandations et d'obligations sont nécessaires.
Alors donc ce sera un golf de combien de trous? Et on imagine bien donc le projet immobilier derrière, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est un golf de 9 trous.
Oui.
La pelouse sera synthétique, donc on imagine tous les produits phytosanitaires nécessaires à l'élaboration d'une zone qui soit vierge en dessous de la pelouse synthétique. Mmh. Sur un domaine de 15 hectares cédé par la commune, et sur la commune de 15 hectares, nous aurons donc une bastide représentant 32 unités de logement, qui représenteront au bout du compte 117 logements pour environ 500 personnes.
Où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Parce qu'on imagine bien qu'une enquête d'utilité publique, et puis que l'on va vous dire, oui mais attendez, nous à l'hôpital, on a besoin de se développer, et seul le tourisme va pouvoir développer la région.
C'est tout à fait ce qu'on entend en règle générale. On est tout à fait favorable, nous, à un développement touristique, mais pas un développement touristique, ce qu'on pourrait appeler un développement de masse, parce que là, en l'occurrence, c'est 500 personnes de plus sur un pays où il y a des problèmes d'eau. Et ces 500 habitants vont, eux, évidemment, consommer de l'eau supplémentaire dans la mesure où il est prévu également un centre de remise en forme,
oui,
qui sera évidemment génératrice de boue, ça personne n'en parle, une piscine particulièrement importante, un jacuzzi, enfin tout ce qui n'est pas consommateur d'eau.
C'est ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, c'est pas exactement du développement durable, quoi.
Ça n'est pas exactement du développement durable, c'en est même très loin.
Alors, une autre information qui nous vient cette fois-ci du Gard, de Jonquière-Saint-Vincent, au 01 42 20 40 40, et ça concerne l'énergie.
Oui, bonjour. Aujourd'hui, des citoyens sont en colère face à un projet de centrale thermique à gaz, Powewo, de 800 MW. Vous savez ce que représente une telle centrale? C'est 2 millions de tonnes de CO2 par an, soit 4 fois plus que le plus gros pollueur du Languedoc-Roussillon. C'est chaque heure la consommation journalière d'eau de notre village qui partirait en vapeur, soit 540 mètres cubes. C'est un énorme gaspillage. C'est un chantage à l'emploi local. Nous savons très bien que la centrale supprimera plus d'emplois qu'elle n'en créera. Vous pensez qu'on n'en construira plus de telles centrales? Eh bien si. Monsieur Becbédé, PDG de Powewo, les élus de notre intercommunalité Terre d'Argent dans le Gard ont décidé, et c'est dans le plus grand secret, de construire une centrale Powewo en pleine zone agricole. À l'heure où M. Sarkozy nous incite à être de bons éco-citoyens, à trier nos déchets, entre autres, d'autres, comme Powewo, donnent priorité à leur profit au détriment de notre qualité de vie et de la santé de la planète. Allons-nous continuer à détruire notre environnement et laisser un héritage ingérable à nos enfants? Signez notre pétition en ligne http://nonalacentrale.free.fr. Merci d'avoir entendu notre colère.
Eh bien, carton vert à présent, on va rester dans le domaine de l'eau. Mais cette fois-ci, il y en a beaucoup. Jean-François Davio, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes un des fondateurs de Hydroélix avec Hervé Majastre. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que votre société s'intéresse aux courants marins, donc aux énergies renouvelables. Que faites-vous actuellement, s'il vous plaît?
Eh bien, depuis 2000 à peu près, Hydroélix Énergie développe un concept d'hydrolienne, donc des machines capables de capter les courants de marée pour produire de l'hydroélectricité.
C'est-à-dire qu'on imagine une éolienne au fond de l'eau, en quelque sorte, renversée?
C'est à peu près ça, absolument. Oui. Alors en France, on est un petit peu en retard comparativement à nos amis d'Outre-Manche. Au demeurant, la Bretagne s'intéresse de très très près à ce genre de sujet. Alors la Bretagne a un enjeu énergétique majeur puisqu'elle dépend des Pays de Loire et de la Normandie en ce qui concerne son approvisionnement en électricité. Mmh. Et le littoral des côtes bretonnes présente quant à lui des potentialités importantes en termes de ces fameux courants de marée.
Donc il s'agit de bien poser évidemment son hydrolienne. Absolument. Et puis de capter ce courant de marée qui va transformer cela après avec une turbine, on imagine, en courant électrique.
Tout à fait. Et ce courant est ramené à la côte par un câble sous-marin. Donc il n'y a pas d'impact visuel, hein. Ces machines sont posées au fond de l'eau et produisent chacune 200 à 500 kilowatts de puissance, ce qui correspond à entre 30 et 50 foyers, quoi, quelque chose comme ça.
Sabella, c'est le nom d'un petit ver marin, mais qu'est-ce
Sabella,
que c'est?
Voilà, Sabella, ouais. C'est une sabelle, c'est un joli ver marin, voilà. Un pyrographe, hein, qui se déploie dans le courant et qui capte et l'oxygène et du phytoplancton, donc qui se ressource dans l'énergie marine. Et bon, ça peut ressembler quelque part à un rotor de ces fameuses hydroliennes.
Donc c'est le nom que vous avez donné à votre
hydrolienne.
Voilà,
pour un premier projet de démonstration qui est en cours de réalisation par un certain nombre d'industriels bretons et qui verra le jour dans l'estuaire de l'Odet, tout à fait début 2008.
D'accord, donc là on en est au stade du prototype et c'est intéressant de voir en amont qu'il y a des idées aussi en énergie renouvelable. On parle très très peu des courants marins. Donc merci à vous Jean-François Davio. Vous êtes à Quimper, hein, c'est ça?
Absolument.
À très bientôt, merci.
Merci, au revoir.
Alors dans cette émission, on est bien conscient qu'il n'y a jamais, on va dire, une énergie totalement nickel, ça va être absolument superbe. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite depuis longtemps, c'est un véritable, on va dire, bouquet énergétique. Et il y a des solutions, effectivement, qui sont moins quand même polluantes que d'autres, qui sont moins énergétivores que d'autres. Donc nous, on lance un petit peu des pistes. Et alors dans ce numéro, Marie-Jeanne Husset, de 60 millions, là, vous vous dites justement, prudence avant de faire jouer la concurrence en ce qui concerne le fournisseur d'énergie. Puisque, on le sait depuis le 1er juillet dernier, les particuliers peuvent choisir leur fournisseur d'électricité et de gaz. Vous dites que c'est quand même une option qui est, on l'a déjà dit, qui est ni sans risque ni sans piège. Hein.
Oui, absolument. Alors ça, on a eu l'occasion de le dire. Et puis nous sommes en train de finir un comparatif, parce que c'est un gros travail, un comparatif de toutes les offres de tous ces nouveaux fournisseurs et que nous allons publier dans un de nos prochains numéros. Mais moi, je voudrais insister sur le côté marketing des offres dites d'électricité verte.
Parce elles sont toutes vertes, c'est formidable.
Voilà, on a vu que tous ces nouveaux, pour se rendre, je dirais, intéressants. Et parce qu'ils
savent aussi... Toutes les bagnoles sont vertes, tous les produits sont verts, c'est formidable. Oui.
Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les consommateurs sont prêts à payer un petit peu plus cher pour avoir l'assurance que l'énergie, l'électricité qu'ils achètent est produite par une énergie renouvelable. Alors tous les nouveaux opérateurs, même les anciens d'ailleurs, se mettent à proposer des offres d'électricité verte. Et puis finalement, quand on creuse un peu, les électrons, ils n'ont pas de couleur, hein, on est bien d'accord, c'est en fait l'assurance que l'électricité a été produite soit par des barrages hydroélectriques, soit par des panneaux solaires. Mais en fait, la plupart de ces offres, elles ne sont pas si vertes que ça parce qu'elles n'entraînent pas une production nouvelle d'énergie renouvelable.
Et puis souvent, donc on achète aussi donc de l'électricité EDF. Hein, donc,
oui, donc c'est, ce sont des c'est de l'électricité qui est produite par des barrages qui ont été amortis depuis fort longtemps, depuis 40 ans. Donc la vraie électricité verte, c'est celle qui entraîne une production nouvelle d'énergie renouvelable. Mmh. Et donc quand on regarde le détail de ces offres, il n'y en a qu'une qui est véritablement de ce type-là, c'est celle qui est proposée par Enercoop, qui est donc un nouveau fournisseur, qui est une petite coopérative dans laquelle d'ailleurs on retrouve aussi des associations écologiques. Et voilà, toutes les autres, ce sont des opérations purement marketing.
Et puis, Marie-Jeanne Husset, vous dites aussi qu'il faut vraiment traquer les consommations inutiles. Et c'est ce que l'on disait avec Patrick Pirot, c'est-à-dire que la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc ça, c'est quand même le premier gisement après énergie renouvelable, etc. Mais alors, on y va parce que là, on s'est bien rendu compte que l'année dernière, augmentation de l'électricité, de la consommation des ménages, pardonnez-moi, a augmenté de 2%. Par an. Moins 1% pour les industriels qui ont fait plus attention, mais 2% de plus pour les ménages.
Mais alors là, c'est vraiment dû au développement de tout ce qu'on peut appeler les technologies nouvelles.
Et qu'on aime bien d'ailleurs.
Eh bien, absolument. Mais on n'en a pas encore conscience. C'est-à-dire que tous les téléviseurs à écran plat, par exemple, hein, on a tous envie de téléviseurs à écran plat.
Alors là, le plasma, il en prend un coup dans votre guide, parce que là, c'est énergétivore. Hein, c'est incroyable.
Mais absolument.
Le LCD est un peu meilleur.
Il est un peu meilleur, sauf que comme les écrans gens deviennent géants et qu'on consomme de plus en plus de téléviseurs à écran géant, eh bien même les écrans à cristaux liquides, les LCD, eh bien au-delà de 80 cm de diamètre, eh bien ils consomment beaucoup. Mais alors c'est surtout l'écran plasma. Hein. Pour une consommation par exemple de 4 heures par jour, quand on regarde la télé 4 heures par jour sur un écran plasma, eh bien on consomme avec ce téléviseur deux fois la consommation du réfrigérateur-congélateur. Il faut le dire que c'est l'appareil le plus consommateur d'électricité, le réfrigérateur-congélateur de la maison. Hors chauffage, hein, bien sûr. Donc, l'écran plasma, c'est un grand consommateur d'énergie. Mais ce qu'on ne sait pas, et je vous livre un scoop là, parce que ça va sortir mardi dans notre mensuel, c'est la consommation des box. Vous savez, les box et tous ces...
C'est pas pour les chevaux. Hein,
Freebox, neuf box, etc.
Ce qui permet de relier les différents appareils de la maison.
Et d'avoir à la fois Internet au débit, le téléphone et la télévision. Eh bien, nous venons de mesurer, nos ingénieurs ont mesuré la consommation électrique des box. Eh bien, c'est phénoménal. La consommation, c'est entre 143 et 263 kWh. Par an, en argent, si vous voulez. Vous savez que les offres au débit, grosso modo, c'est 30 euros par mois. Eh bien, la consommation électrique de la box, c'est grosso modo la même chose. C'est 30 euros sur l'année. Donc, c'est quasiment un 13e mois d'Internet. Voilà, c'est le 13e mois d'Internet. Et puis,
Bêtement, puisqu'on parlait de bon sens, il suffirait de l'éteindre, non? C'est ça, quand on l'utilise
Mais là, ça correspond. C'est aussi faire pression sur les fabricants de box pour qu'ils mettent au point des appareils qui soient beaucoup, beaucoup moins consommateurs.
Ils pensent à ce qu'on appelle la fameuse efficacité énergétique.
Absolument, parce qu'à l'échelon national, eh bien, vous savez qu'il y a à peu près 14 millions d'abonnés au débit et un peu plus de 3 millions qui ont la télévision par la DSL. Eh bien, nous avons fait des calculs. La consommation générale des box en France, ça correspond à, sur l'année, à 2,5 mois de la production d'un réacteur nucléaire.
Que les box, c'est 2,5 mois de la production d'un réacteur
nucléaire qui est consacré à...
Entre 900 mégawatts et 1200 mégawatts, me semble-t-il, en ce qui concerne un réacteur nucléaire.
Donc, 2,5 mois d'un réacteur nucléaire ne servent qu'à produire l'électricité pour faire fonctionner nos petites boxes.
Oui, bah, l'action de l'EDF va monter, c'est clair.
Voilà, ces nouvelles technologies, il y a beaucoup de travail à faire.
Alors, je vois que vous aussi nous mettez en garde, et si vous avez raison, la différence entre l'économiseur d'écran et l'économiseur d'énergie. Là aussi, ce sont des choses qui sont quand même différentes.
C'est trop lourd, ça. Hein, l'économiseur d'écran, l'écran il continue à fonctionner avec une image qui bouge. Ça sert à faire en sorte que l'écran ne soit pas...
Ne vieillisse pas trop vite.
Qu'il n'y ait pas une image fixe sur l'écran. C'est-à-dire que les mêmes points lumineux resteraient lumineux pendant très longtemps, ça l'endommagerait. Donc on fait bouger une image, mais il fonctionne de la même manière. L'économiseur d'énergie, c'est bien autre chose. C'est-à-dire c'est l'écran qui se met totalement en veille, il devient noir, quoi. Et puis là, il consomme presque plus.
Il faut vraiment dire à tous les consommateurs d'éteindre leurs appareils pour évidemment d'essayer d'éviter les veilles, parce que ça, on n'a pas parlé des veilles, mais ça, tous ces appareils veille.
On avait calculé il n'y a pas très très longtemps aussi, il y a 2-3 ans, la consommation de l'ensemble des appareils en veille, hein, vous savez, ceux qu'on laisse allumer, avec la petite lumière rouge pour la télécommande, etc. On fait la somme de tout ça sur la France. Eh bien, c'est la consommation d'un réacteur nucléaire pendant toute l'année. C'est-à-dire que si ça n'existait pas, il faudrait construire un réacteur nucléaire pour pouvoir alimenter tous ces appareils en veille. Donc, voilà, c'est le piège de ces tout petits ruisseaux, croit-on, et qui finissent par faire d'énormes consommations. Donc, installez tous vos appareils sur des boîtiers à prise multiple avec un interrupteur que vous appuyez pour tout éteindre. Et comme ça, vous êtes sûr que vous avez interrompu l'ensemble IFI, l'ensemble informatique. Et la machine à café, Denis, que vous aimez bien.
Oui, bien sûr. Et donc, là, on était vraiment sur le côté geste écologique, mais Dieu sait si c'est important. Je reviens un tout petit peu sur la construction. Quand on voit, par exemple, qu'en Espagne, du côté de Barcelone, les permis de construire sont subordonnés au fait que des énergies renouvelables entrent dans les maisons du neuf. On n'en est pas encore là. On a beau avoir une ERT, c'est-à-dire une réglementation thermique 2005, bientôt une 2010. Je veux dire que si en France, on disait ça, on va vous dire, oui, mais attention, liberté, on ne peut pas faire... Bon. Mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne.
C'est-à-dire. Absolument. Il y a aussi toutes les aides et c'est une façon aussi, effectivement, d'inciter les consommateurs. Mais alors, on donne justement dans ce hors-série...
C'est un maquis pour les aides. C'est vrai qu'on peut être aidé. Réellement, on est aidé.
On est aidé effectivement pour le logement principal, l'habitation principale. Mais c'est très compliqué de savoir quelle aide on a droit. Donc, on essaie de donner région par région.
Vous avez fait le tour de France des aides solaires par région. Voilà.
Parce qu'il y a effectivement il y a les crédits d'impôt d'un côté, il y a les aides de l'autre, les aides régionales, il y a les municipalités aussi qui peuvent donner des aides. On donne un peu toutes les adresses par région.
On y arrive, il faut dire, c'est un maquis, mais moyennant un tout petit peu d'effort, on arrive quand même à faire son chemin. On n'en est plus à l'époque des pionniers non plus. On a vraiment les moyens quand même de s'informer puis de trouver ce à quoi on a droit. Et dans certaines régions, comme Rhône-Alpes par exemple, on a des aides qui sont tout à fait importantes pour le solaire. Donc il faut se renseigner un tout petit peu auprès de son ADEME local, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Et on arrive à savoir tout ça.
Voilà, alors moi je vous présente mes excuses à Elisabeth Laville parce qu'on va la rejoindre, mais ce sera dans une autre semaine. J'avais une nouvelle séquence, racontons notre CO2, on partait d'un produit et voir ce qu'il y avait effectivement derrière.
Ah oui.
Mais c'était tellement dense avec vous, donc c'était. On y reviendra, qu'elle ne s'inquiète pas. Merci à vous, merci Marie-Jeanne Husset, merci Patrick Pirou. Alors moi je voudrais citer vraiment votre guide qui a à peu près un an, Guide des énergies vertes pour la maison de Patrick Pirou aux éditions Terre Vivante. Puis vous l'avez compris, donc ce numéro de 60 millions de consommateurs, c'est un hors-série, donc vraiment
il vient de sortir.
Ouais, donc il va rester 3 mois, 4 mois.
Deux mois,
et ben voilà, mais en tout cas il est drôlement bien fait et drôlement utile. Merci Antoine Viossa, Bénédicte Roy à la technique, à Jean-Baptiste Audibert, à Jean-Christophe Pinaza et Xavier Pestugia qui réalisait cette émission. Alors, histoire de consommer un petit peu d'électricité, ben bien sûr, vous pouvez à la fois, j'espère, podcaster l'émission, je m'avance pas trop, mais enfin, a priori ça devrait fonctionner, la réécouter pendant 4 semaines. La réécouter aussi le dimanche dans la nuit de 4h à 5h du matin. Et puis des liens sur le site grâce à Anne Gouzon. Alors la semaine prochaine, ça va être un peu chaud parce qu'on va à la fois parler de PCB dans le Rhône, parce que le fleuve n'est pas très en forme. Et aussi alors, un bouquin très bien de Frédéric Danhé, La nature, combien ça coûte ? Pourquoi l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie ? Donc là, c'est une thèse tout à fait intéressante. Dans notre grande série Changeons d'air, eh bien voilà, c'est ce que nous allons faire. Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end. Et dans quelques instants, eh bien ce sera le zapping de France Inter avec Mathias Deguel. Il est 15h.